maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. Salut tout le monde et bienvenue à vous à bord de cette émission. Une heure à évoquer Internet. On est avec Philippe Rivière pendant une heure. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Comment est-ce qu'on peut te présenter ?
Bah écoute, je fais pas mal de choses sur Internet depuis un moment. En fait, depuis que Internet s'appelle Internet, en 1990, j'ai eu la chance d'être connecté. Donc on peut me présenter comme un dinosaure de l'Internet, même si je suis sans doute pas le plus vieux des dinosaures. Ensuite, bon, j'ai fait diverses choses et puis j'ai commencé à travailler pour le site Internet du Monde Diplomatique. Donc je suis à la fois devenu journaliste au Monde Diplomatique et j'ai continué à m'occuper de sites Internet depuis cette époque.
De quoi on va parler pendant cette heure ?
Je pense qu'aujourd'hui on va parler des logiciels libres, de la musique libre, de savoir à qui appartient la culture, s'il faut l'emprisonner ou la libérer.
On va commencer cette émission avec une chanson signée Woody Guthrie. On écoute d'abord et tu nous expliques après qui était ce monsieur.
There's a better world to come in, tell you why. There's a better world to come in, tell you why. We will feed 'em on the land, on the sea and in the sky. There's a better world to come in, tell you why. There's a better world to come in, don't you see. There's a better world to come in, don't you see. When we'll all be union and we'll all be free, there's a better world to come in, don't you see. There's a better world a coming, and don't you know, no. There's a better world a coming, don't you know. I'm a union man in a union war, it's a union world I'm fighting for. There's a better world a coming, don't you know. There's a better world a coming, there's a better world a coming, there's a better world a coming. I'll tell you why, don't you see, and don't you know. Hey, there's a better world that's coming, tell you why. There's a better world that's coming, tell you why. There's a better world that's coming, tell you why. Out of marching, out of battling, you can hear the chains are rattling. There's a better world that's coming, I'll tell you why.
Le chanteur Woody Guthrie pour ouvrir cette émission et cette heure que nous allons passer ensemble avec Philippe Rivière, notre spécialiste d'Internet pour aujourd'hui. Qui était Woody Guthrie, Philippe, et pourquoi cette chanson pour ouvrir cette émission?
Déjà, Woody Guthrie, le petit point d'actualité, c'est que c'est son centenaire. Il est né le 14 juillet 1912 et c'était aussi un chanteur, donc compositeur américain très engagé. Et on va voir qu'il y a des liens assez profonds entre ce qu'il faisait et les questions que se pose la culture libre.
Une photo de Woody Guthrie qui a l'air d'être un bon bougre, et il y a un autocollant ou quelque chose d'écrit sur sa guitare là.
This machine kills fascists. Cette machine tue les fascistes. Et cette machine, c'est sa guitare. Donc pour lui, la musique, ou en tout cas l'outil qui lui permet de produire sa musique, c'est une machine politique. Ça correspondait assez bien à ce qu'on essaye de faire, pas tous évidemment, mais ce que beaucoup d'internautes essayent de faire, de transformer Internet et l'informatique en des machines politiques.
Un message qui nous vient du passé, parce que Woody Guthrie a démarré sa carrière fin des années 30, années 40. On n'est pas dans la haute technologie là, on est toujours dans la guitare en bois. Donc on vous explique comment de la guitare en bois, on en arrive à l'électronique moderne d'aujourd'hui.
Ce qui m'a amusé effectivement, c'est sur ses premiers disques, on est au début des années 40, il fait inscrire une mention copyright warnings, donc attention au copyright. Et son copyright warning, c'est « Cette chanson est protégée aux États-Unis sous le sceau du copyright numéro 154-085 pour une période de 28 ans. Et toute personne prise à la chanter sans autorisation sera mon meilleur ami. Car je n'en ai rien à fiche, publiez-la, écrivez-la, chantez-la, dansez dessus, yodelez-la. Je l'ai écrite, c'est tout ce que je voulais faire. » aujourd'hui, à chaque fois que vous insérez un film dans votre lecteur DVD, vous devez endurer une très longue présentation avec des écrans affreux. Warning, la reproduction ou la redistribution non autorisée de cette œuvre copyrightée est illégale. Une violation criminelle de ce copyright, même sans gain monétaire, sera suivie d'une enquête du FBI et est punissable d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans dans une prison fédérale et d'une amende de $250,000. Alors ça, c'est la version américaine. En France, c'est punissable d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans et d'une amende de €300,000. Voilà, je trouve que c'est une drôle de manière de vous remercier d'avoir acheté le DVD, éventuellement de chanter la chanson sous la douche ou de la rejouer en public. Ce qui me frappe, c'est que dans l'informatique, c'est la même chose. Les auteurs de logiciels ont deux possibilités pour s'adresser à leur public, les utilisateurs. Soit ils leur font signer une clause légale qui explique qu'il faut faire très attention à utiliser le logiciel comme il convient si on veut avoir quelque chance de ne pas aller en prison. Soit ils leur disent que toute personne prise à jouer avec ce logiciel, comme elle l'entend, sera leur meilleur ami. Dans le premier cas, on parle de logiciel propriétaire, qu'on appelle privateur, quand on se pose vraiment des questions de savoir quelle liberté on accorde à l'utilisateur. Privateur au sens de la privation de liberté. Et dans le second cas, on parle de logiciel libre.
Si je vais sur Internet pour copier illégalement des chansons de Woody Guthrie pour illustrer cette émission, qu'est-ce qui se passe ? On encourt des sanctions pénales ou on est les amis de Woody Guthrie, qui demeurant d'ailleurs n'est plus de ce monde ?
En fait, il faudrait étudier effectivement le cas Woody Guthrie à part, puisque il a des ayants droit, ça va être ses héritiers, il y a une fondation qui est créée, qui peut sans doute gagner de l'argent avec les droits sur ses chansons. Il faut savoir que les droits d'auteur courent plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après la mort de l'artiste et qu'on ne peut toujours pas utiliser Mickey comme on l'entend, bien qu'on soit de nombreuses années après la mort de Disney, parce que les studios Disney ont réussi à faire passer des lois étendant systématiquement la durée du copyright. C'est ce qu'on appelle les lois Mickey. Pour ce qui est de Woody Guthrie, je ne sais pas exactement, je pense qu'on va prendre le risque d'écouter une nouvelle chanson.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? Rainy night down in the engine house, sleeping just as still as a mouse. Man, come along and chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy day, we passed the time away, sleeping in some good warm place. Man, come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man, and he said, unite all you working men, killed him in the river, some strange man. Was that a vigilante man?
Dédié à Internet, au logiciel libre, à l'open source, placé sous l'égide de Woody Guthrie. Philippe, notre invité pour aujourd'hui, spécialiste d'Internet, on a qu'à décider que Woody Guthrie est notre ami. On en revient à Woody Guthrie en 1940 et quelques, quand il fait cette déclaration. Voilà, le copyright sur ma chanson, j'en ai rien à fiche. Ma chanson, chantez-la, reproduisez-la, dansez-la. C'est un comportement assez étonnant, assez révolutionnaire. Normalement, un artiste, il fait une chanson pour gagner des sous, pour toucher des royalties.
Je sais pas si un artiste est vraiment motivé au départ par l'argent. Il a sans doute envie de vivre de son art. C'est une première question. Ensuite, savoir s'il veut amasser des millions avec... je sais pas, si on écoute de la musique punk, il n'y a pas d'avenir, quoi. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est qu'on retrouve cette démarche dans le logiciel. Mais avant de parler de la démarche de ceux qui s'opposent au copyright, il faut un petit peu revenir en arrière. Au départ, dans l'histoire du logiciel, le logiciel n'est pas né en cage. Il n'était pas, il n'y avait pas de droit spécifique sur les premiers programmes. C'était comme des formules de mathématiques ou comme des recettes de cuisine. On les donnait avec la machine. Ces logiciels permettaient de faire tourner les machines et les machines coûtaient très cher. Et le logiciel lui-même n'avait pas de statut juridique particulier, enfin très précis, puisque de toute façon, pour faire tourner la machine, il fallait ces logiciels. Et donc, les vendeurs de machines gagnaient leur argent en vendant des machines et pas des logiciels. Donc à l'époque, je vais citer Lawrence Lessig, qui est un juriste américain spécialisé dans le droit d'auteur. Il dit à l'époque, vous ne pouviez pas faire tourner un programme écrit pour une machine de la marque Data General sur une machine IBM. Donc Data General et IBM ne se préoccupaient pas de contrôler leur logiciel. Mais évidemment, la valeur de ces logiciels était énorme, puisque sans aucun programme, l'ordinateur ne faisait rien. Un petit C de point qui clignotait éventuellement sur un écran noir. Et un certain Bill Gates, dont vous avez tous entendu parler, lui avait bien compris que le contrôle du logiciel permettait de mettre la main sur l'ensemble du dispositif. IBM, la gigantesque firme américaine, n'avait pas compris ça. Il fallait qu'elle vende des ordinateurs personnels, c'était son pari que ces machines allaient fonctionner, et elle se fichait bien de savoir ce qui fonctionnerait dessus. Et comme elle n'avait pas le système d'exploitation, c'est-à-dire le logiciel qui permet de faire tourner la mémoire, les disques durs, etc., enfin les disquettes à l'époque, elle n'avait pas de logiciel sous la main, donc elle a regardé ce qui existait sur le marché, elle a vu Bill Gates qui venait juste de démarrer, qui lui-même a racheté un système d'exploitation qui s'appelait QDOS, ce qui signifie Quick and Dirty OS, c'est-à-dire un système d'exploitation rapide et mal fait. Oui, non, mais il savait un petit peu ce qu'il faisait. Donc il est allé le plus vite possible, il a fait MS-DOS, donc le système d'exploitation de Microsoft. IBM a racheté des licences sur MS-DOS pour pouvoir le diffuser avec les PC. Et on sait ce qu'il est advenu de ce choix stratégique, ou de cette erreur stratégique. Microsoft, l'éditeur de MS-DOS, est rapidement devenu le plus gros éditeur de logiciels, et il continue aujourd'hui encore à prélever une rente énorme sur l'ensemble des usages de l'informatique, et on n'arrive plus à s'en dépêtrer, parce que dès qu'on essaye de faire autre chose, on peut essayer d'utiliser Linux, on peut essayer d'utiliser LibreOffice pour pas utiliser Word, etc. Mais on a toujours des correspondants qui se sont pas libérés de ça, et dans toutes les organisations, c'est extrêmement difficile de lutter contre cette capture des produits, des logiciels et des fichiers, toutes les archives qu'on peut avoir sous forme de fichiers informatiques. Donc ça, c'était très rapidement l'histoire d'un logiciel privateur, disons le plus connu et celui qui pose encore le plus de problèmes. On va l'opposer avec une sorte de Woody Guthrie de l'informatique qui s'appelle Richard Stallman, qui est un chercheur étudiant au MIT à Boston, au Massachusetts Institute of Technology. Et lui, s'était habitué, comme tous les informaticiens de ces années-là, des années 70, à bidouiller les programmes qui se trouvaient sur ces machines, de manière à les améliorer ou à les adapter à la configuration du matériel qu'il avait sous la main, qui n'était pas forcément... on relie une imprimante à un ordinateur. Le constructeur n'a peut-être pas tout à fait prévu cette imprimante-là et elle est capable d'imprimer quelque chose qui n'est pas prévu dans le logiciel au départ. Donc il faut bidouiller, adapter un petit peu pour que ça fonctionne bien. Et pour lui, ça faisait partie de la normalité dans l'informatique et encore plus dans le monde universitaire. Il y a une communauté de gens qui réfléchissent, qui développent des idées et qui s'échangent ces idées et chacun construit à partir des idées des autres. Et autour de la programmation, c'était la même chose, en tout cas dans ce milieu universitaire. Donc des échanges d'astuces, des concours pour être le premier à trouver une solution, etc. Et un jour, il s'aperçoit que le code du logiciel qui pilote une imprimante n'était pas livré avec la machine. Il ne pouvait que faire tourner ce logiciel, ce pilote, il ne pouvait pas le modifier. Il ne savait pas exactement ce qui était inclus dans ce programme. Donc s'il y avait un bug, il fallait contacter l'éditeur, signaler le problème, espérer que l'éditeur puisse comprendre le problème, qu'il le corrige et attendre donc une nouvelle version qui viendrait plus tard et qu'il faudrait peut-être payer à nouveau. Donc ça, c'est au début des années 80. Ça a fait tilt dans l'esprit de Stallman, qui voyait que ce genre de choses commençait à se répandre et que les logiciels qui étaient nés libres étaient de plus en plus mis en cage. Et surtout les utilisateurs des logiciels. Hein. Dans le logiciel libre, l'idée, c'est pas tellement que le logiciel lui-même soit libre de faire ce qu'il veut, c'est que les utilisateurs de ces logiciels soient libres. Donc il s'est dit que si personne ne protégeait ses libertés, on allait les perdre. Et il en a fait sa mission dans l'existence. C'est assez impressionnant parce qu'il a vraiment consacré sa vie à ça depuis. Il a décidé de les protéger sur le plan légal et de les structurer aussi techniquement d'une manière efficace. Donc en 1984, il démissionne du MIT de manière à ne pas avoir de lien hiérarchique qui pourrait lui coûter son indépendance. Et il fonde un projet qui s'appelle GNU. Donc GNU, ça veut dire GNU is not Unix. Pour utiliser Unix, enfin un système similaire à Unix, mais sans passer par les propriétaires de Unix, qui était le grand système d'exploitation utilisé dans les universités à l'époque. Toujours maintenant, mais maintenant on l'appellera plutôt Linux, enfin même s'il y a plusieurs variantes. Il a monté ce projet d'un nouveau système d'exploitation libre et une fondation, Fondation pour le logiciel libre, ou Free Software Foundation, FSF. Donc on a d'un côté un projet technique qui consiste à fabriquer un système d'exploitation totalement libre, sans aucun composant propriétaire ou privateur, et de l'autre une fondation dédiée à la protection du logiciel libre. En ayant des actions sur ces deux volets, qu'il arrive à déclencher le mouvement qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des logiciels libres, et qui dépasse largement la personne de Richard Stallman, bien sûr. Donc Stallman, quand même, il a écrit de nombreux logiciels, notamment il a écrit un éditeur de texte qui s'appelle Emacs, qui est utilisé par beaucoup de programmeurs. Et puis il a fait un travail juridique qui a abouti à ce qu'on appelle la licence publique générale GNU, ou la GPL. C'est une licence libre, il y en a d'autres. La licence GPL, elle fait référence à GNU, donc à ce système d'exploitation. La licence MIT fait référence au Massachusetts Institute of Technology. Et la licence BSD, elle fait référence à la fac de Berkeley. C'est des notions qui viennent un petit peu des universités américaines. Ces licences s'appliquent aux utilisateurs d'un logiciel. C'est une sorte de contrat qu'on fait signer aux utilisateurs des logiciels en leur disant, voilà, on va vous donner des droits et parfois vous imposer des devoirs si vous acceptez d'utiliser mes logiciels dans le cadre que je vous indique. Et alors ce cadre vise à optimiser les libertés des utilisateurs. Alors c'est moins fun que la licence de Woody Guthrie, hein. On ne peut pas yodeler les logiciels, on ne peut pas les danser. Mais en première liberté, c'est le droit d'utiliser le logiciel pour faire ce qu'on veut. Donc on ne peut pas interdire à quelqu'un d'utiliser son logiciel pour quelque chose qui ne serait pas bien. Par exemple, pour insulter Dieu, on ne peut pas faire une licence disant « Si vous insultez Dieu avec ce logiciel, je vous retire le droit d'utiliser ». Donc les gens ont cette liberté de faire ce qu'ils entendent avec ce logiciel. On a le droit de lire le code source du logiciel, c'est-à-dire les éléments qui permettent de comprendre ce que fait le logiciel. On a le droit de modifier ce code source pour lui faire faire autre chose ou lui faire faire mieux quelque chose qu'il ne fait pas bien. Et on a le droit de redistribuer le logiciel ainsi que les versions modifiées. Donc dès lors qu'on a le droit de redistribuer un logiciel, le coût devient essentiellement nul, surtout avec Internet, mais ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème n'est pas de dire que c'est des logiciels gratuits, et il y a des logiciels gratuits qui ne sont pas libres, puisqu'on ne vous confère pas la liberté de savoir comment marche le logiciel. Un exemple typique, c'est Google Chrome, qui est un navigateur pour aller sur Internet, très efficace, qui va très vite, mais on ne sait pas quelles informations il envoie à Google quand on l'utilise, parce qu'on n'a pas accès au code source. Il y a une partie du code source qui est libre, qui s'appelle Chromium, et il y a des gens qui utilisent cette partie du code source de Chrome pour faire un logiciel qui s'appelle aussi Chromium, qui lui est libre. Donc on peut savoir ce qu'il y a dans Chromium, mais la version fermée de Google, on ne sait pas ce qu'elle fait. Donc peut-être qu'elle envoie des infos à notre insu, on ne sait pas. Voilà. Et on n'a pas de garantie parce qu'on n'a pas pu observer le code source. Donc on voit que ces libertés, ce n'est pas seulement de pouvoir mettre de la musique sur son ordinateur ou prendre des photos, c'est une liberté assez fondamentale. C'est le droit à la vie privée, c'est le droit à l'expression, le fait de ne pas être tracé, le fait que son ordinateur ne serve pas à des fins autres que celles qu'on a décidées. C'est le fait de pouvoir s'interfacer avec des produits, avec d'autres produits ou d'autres logiciels sans avoir à demander la permission, etc. Il faut vraiment insister là-dessus, la liberté dans le logiciel libre est plus importante que la gratuité. Le problème, c'est qu'en anglais, c'est le même mot. Free software, ça veut dire logiciel libre ou logiciel gratuit. sans doute une petite erreur dans le nommage. Et il aurait peut-être fallu l'appeler Liberty Software, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, maintenant, quand on parle de logiciel libre en anglais, on parle de Free and Libre Software. On renforce le côté liberté en utilisant le mot français, ce qui est assez, assez étonnant.
C'est pas un petit peu paranoïaque comme vision. Bill Gates met des espions dans nos ordinateurs, on va être fliqué, tracé.
Il me semble qu'on est dans un monde où on fait de plus en plus de choses avec l'informatique, de plus en plus de choses qui tiennent à la vie privée, mais aussi à la vie militante, politique, de s'informer, de correspondre, faire ses comptes, etc. Toutes ces choses, elles peuvent être intéressantes pour des forces, quelles qu'elles soient, commerciales, étatiques, policières, pour, si on travaille dans une entreprise, pour éventuellement une entreprise concurrente. Et c'est pas de la paranoïa de dire que toutes ces technologies de surveillance, d'espionnage et de matraquage publicitaire existent et sont répandues. Enfin, il suffit de regarder l'actualité des derniers mois pour voir que c'est absolument partout. Il y a eu l'affaire d'espionnage avec Renault, il y a eu WikiLeaks, où là pour le coup c'est l'État américain qui s'est fait pirater. Il y a le fichage des élèves avec base élèves, problème de sécurité sur le site dont j'oubliais le nom, sur lequel on peut consulter les notes des élèves au collège et au lycée. Problème de sécurité. Maintenant on parle de voter par internet. Donc ça veut dire que si on ne sait pas ce qu'il y a dans la machine de vote, ça va devenir une machine à voter. On sait pas. La machine va voter, comment le savoir ? Comment faire confiance à l'institution dès lors qu'on ne sait pas comment fonctionne la machine ? Alors bien sûr, chaque citoyen ne va pas se mettre à aller contrôler des logiciels de vote. Mais si le logiciel est public et que suffisamment de gens s'y intéressent, le risque qui est une porte arrière, une backdoor comme on dit, c'est-à-dire un système de surveillance ou un système de trucage, ou voilà, ce risque diminue. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement absent. On a même un cas où un programmeur qui travaillait dans un des systèmes d'exploitation libre, je ne sais plus lequel, je crois que c'est un système BSD, donc une autre version de Linux, si on veut. Donc un des programmeurs qui travaillait là-dedans, qui avait participé à l'élaboration des logiciels de cryptographie, donc de sécurisation des transmissions, a avoué qu'il avait été payé par les autorités américaines, je crois par la NSA, pour introduire un bug dans le système de cryptographie. Donc la NSA, si elle avait à décrypter, déchiffrer des transmissions soi-disant sécurisées par ce système, elle aurait pu le faire les doigts dans le nez, quoi, sans utiliser tous ses super ordinateurs en même temps, mais juste avec un ordinateur normal. Donc ces choses, elles existent. C'est pas de la paranoïa au sens d'imaginer des malheurs ou des agressions qui n'existent pas. Après, est-ce que c'est grave d'être surveillé ? Est-ce que c'est grave de subir la publicité ? Est-ce que c'est grave que la police puisse intervenir toujours, partout ? Et ça dépend certainement des cas. Et peut-être que dans certains cas, on veut qu'effectivement la police puisse faire son travail. Et voilà. L'idée, c'est pas de dire on est entouré d'ennemis et il faut s'en protéger. C'est un choix de société. Est-ce qu'on veut être traqué en permanence par tous les pouvoirs ? Ou est-ce qu'on veut se défendre de ça ? What we got to say, yeah. Power to the people, no delay. Make everybody see, in order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. We'll be right back.
Vous êtes toujours à la compagnie de Philippe Rivière, votre spécialiste de l'Internet pour cette émission. Ça le fait rire, Philippe, d'être bombardé spécialiste comme ça. Philippe vous entretient aujourd'hui des logiciels libres et on va aussi parler de l'open source. La source ouverte, hein, littéralement en français. Là, ça va, il n'y a pas d'erreur de traduction, il n'y a pas de double sens comme avec free, gratuit et libre.
Non, mais effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui ont confondu open source et libre. Et c'est vrai que dans les faits, pour qu'un logiciel soit libre, il faut qu'on ait accès à son code source, que le code source soit ouvert. Un logiciel qui est libre a forcément son code source ouvert, lisible et modifiable par qui le souhaite.
Qui peut.
Par qui le souhaite et qui le peut. Mais il y a des fois, on peut faire des modifications dans un logiciel sans qu'il y ait aucune barrière technologique. Il ne faut pas se dire « j'ai pas le niveau ». Par exemple, la plupart des logiciels sont prévus pour être internationalisés, c'est-à-dire traduits. Et chacun peut contribuer en faisant des traductions ou en corrigeant des phrases qui sont où on voit que la traduction a été faite un peu trop vite. Et ça, il n'y a pas besoin d'un niveau technologique très élevé. Il suffit d'envoyer un mail en disant « j'ai repéré telle traduction qui était fausse, voici la correction ». Il faut trouver où envoyer ce mail et trouver comment se mettre en relation avec les développeurs du logiciel. Et eux ensuite vous expliqueront, peut-être remercieront tout simplement de la correction et la reporteront eux-mêmes, ou bien ils vous expliqueront alors, pour traduire on a tel logiciel et si tu peux l'installer et commencer à... La participation, elle est vraiment ouverte à tous les niveaux de participation. Après, on peut se dire qu'on va traduire le logiciel en breton si ce n'est pas déjà fait. Et là, s'il n'y a rien de fait et qu'il y a 1000 phrases à traduire, c'est un petit peu de travail quand même. Mais il ne faut pas se dire qu'un logiciel, ça n'est que du code complexe avec des algorithmes et des langages qu'on ne maîtrise pas, etc. C'est un ensemble de choses. Il y a des éléments de graphisme, de documentation, de traduction, d'animation... de la communauté. Donc je participe à la communauté de SPIP, qui est un logiciel qui permet de faire des sites internet. Un des modes de contribution qui est très important, c'est l'organisation d'apéro SPIP, c'est-à-dire c'est des événements très accessibles. Il faut trouver une salle et chacun vient avec deux trois choses à boire et son ordinateur, et puis on parle de SPIP et les gens ont des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser telle fonctionnalité, et les autres qui savent les aident, leur expliquent. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire si on a un petit peu le sens de l'invitation et de la fête, je dirais. La participation, elle est ouverte sur plein de niveaux, et c'est pas uniquement des cadors de la programmation qui peuvent participer. Je vais revenir à la question là de tout à l'heure de la licence GPL, parce qu'elle montre aussi une différence entre peut-être les approches du libre et de l'open source. Open source, donc source ouverte, c'est une démarche technique qui dit le logiciel, chacun peut voir comment il est fabriqué et chacun peut l'adapter. Dans la démarche du logiciel libre, on s'intéresse moins philosophiquement, je dirais, au logiciel qu'aux utilisateurs du logiciel. On leur dit quels sont leurs droits, on leur dit éventuellement quels sont leurs devoirs. Là, il y a plusieurs écoles. Il y a des licences qui disent vous avez le droit de faire tout ça, donc tout ce que j'ai cité tout à l'heure, utiliser le logiciel, le modifier, redistribuer des versions modifiées. Et la GPL, la licence développée par Richard Stallman, elle introduit quelque chose en plus. Elle dit, et en plus, si vous faites tout ça, on vous demande, là pour le coup c'est un devoir, on vous demande de conférer les mêmes droits à vos utilisateurs. C'est-à-dire qu'un logiciel libre sous la GPL qu'on améliore, les améliorations ne peuvent pas être privatisées, ne peuvent pas redevenir du logiciel privateur. Il y a des gens qui pensent que c'est pas grave et que, par exemple, si on veut que des grosses entreprises s'intéressent à notre logiciel, il faut qu'on ait une licence plus libérale, autorisant n'importe qui à reprivatiser ces modifications du logiciel. C'est ce qui est arrivé, par exemple, avec Apple. Apple a récupéré un navigateur internet qui s'appelait KHTML, enfin récupérer le moteur de ce navigateur internet, c'est-à-dire l'outil qui permet d'afficher les pages web, et elle l'a transformé en Safari. Safari, c'est un logiciel propriétaire. On ne sait pas comment il est programmé, on sait simplement que à l'intérieur, le moteur, c'est KHTML. Et donc Apple a beaucoup amélioré ce moteur pour qu'il soit plus rapide, plus conforme aux standards, plus efficace, etc. Apple a redistribué certaines de ces modifications, peut-être la plupart, mais ça on ne sait pas, au projet KHTML, mais par contre Safari n'est pas libre. Donc ils ont ajouté une couche d'interface, etc. dont on ne sait pas ce qu'il y a. Enfin, on voit le résultat, mais on ne connaît pas le code source. Donc, le pari de KHTML d'utiliser une licence plus libérale que la GPL, pour eux, quelque part, a été payant, puisque leur logiciel a été amélioré par Apple. Mais pour les utilisateurs de KHTML, ça n'a rien apporté au sens où maintenant il y a beaucoup plus d'utilisateurs de KHTML, puisqu'il y a tous les utilisateurs de Safari. Mais ces utilisateurs-là ne bénéficient pas des libertés qui avaient été prévues et décidées par les auteurs de KHTML. C'est peut-être un peu complexe. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui sont plus libérales, qui visent l'efficacité technique. Et l'école de la GPL qui est plus politique, qui est plus en direction des utilisateurs. Et qui a des motivations plus philosophiques, je dirais. Après, tous ces gens s'entendent relativement bien quand même. Il est assez facile de faire cohabiter les différents types de logiciels et de licences, mais parfois il y a des blocages et il y a des gens qui se trouvent tenus de ne pas travailler avec d'autres parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre sur les libertés et les devoirs qu'ils vont accorder ou demander à leurs utilisateurs.
Potentiellement dans Safari un outil potentiel de flicage, quelque chose qui enverrait des informations nous concernant à l'insu de notre plein gré et à qui?
Pour ce qui est des navigateurs internet, c'est un petit peu compliqué d'entrer dans les détails et c'est pas très flagrant. C'est-à-dire, il y a une application par exemple, un élément des navigateurs internet qui est de vérifier que le site sur lequel on est en train de naviguer est bien le bon. Que c'est pas un faux site bancaire qui va nous demander notre carte bleue pour en faire n'importe quoi. Ou si c'est pas un site qui va installer un virus, etc. Cette fonctionnalité du navigateur, à chaque fois qu'on visite un site, elle appelle une base de données gérée par Google ou autre. Une base de données de sites qui ont été repérés comme hébergeant des virus ou je ne sais quoi. Et si le site qu'on regarde fait partie de cette base de données, est mentionné dans cette base de données, le navigateur va nous mettre un avertissement. Et nous dire, attention, si vous allez là, nous on a repéré que ce site avait des problèmes, donc il vaut mieux, si vous savez ce que vous faites, allez-y, mais en cas de doute, il vaut mieux pas y aller. Enfin, un gros avertissement comme ça. Donc on peut se dire que c'est pour notre bien, pour éviter de diffuser des virus, etc. Et en même temps, on peut se dire que c'est un peu étrange qu'à chaque fois qu'on va sur un site, pour s'informer, ou parce qu'on a des problèmes de santé ou quoi, qu'on veut s'informer sur ce qui nous arrive, l'information de ce qu'on est en train de visiter est envoyée, consultée sur une base de données. Est-ce qu'il y a un danger précisément dans cette fonctionnalité? Je ne sais pas. Enfin, la fonctionnalité existe, c'est un petit peu inquiétant. Mais je pense que c'est discutable et il faut vraiment entrer dans les détails pour savoir ce qu'il en est. Par contre, ce qui est plus préoccupant, il me semble, sur la planète, on est 5 milliards d'humains à être équipés d'un traceur qui nous suit, où qu'on aille, qui indique à des boîtes privées où on se trouve et ce qu'on est en train de faire. Ce traceur, je pense que t'en as un.
J'en ai un. Passer des coups de téléphone, Alec ?
Oui, parfois ça sert à téléphoner, mais de moins en moins souvent. Ce traceur, oui, ce mouchard... Donc c'est le téléphone, t'as deviné ma blague. On ne sait pas comment il fonctionne, on ne sait pas quelles informations il envoie, et c'est des informations qui concernent tout ce qu'on fait dans notre quotidien. Je ne sais pas si tu te souviens de l'affaire Mélic. C'était lié à l'affaire Bernard Tapie, et Jacques Mélic avait témoigné comme quoi je ne sais plus exactement, il était avec Bernard Tapie à tel endroit, donc ça lui fournissait un alibi, il n'avait pas pu truquer, je ne sais quoi. J'ai pas les détails en tête, mais Jacques Mélic s'était fait avoir parce qu'il était passé sur une autoroute et il avait payé avec sa carte bleue. Le passage d'une carte bleue sur un péage d'autoroute avait réussi à montrer que son témoignage était un faux témoignage. Là, on parle pas d'un passage sur un péage d'autoroute, on parle de toutes les 30 secondes, une information précise de localisation de notre téléphone portable qui souvent est dans la poche, qui est envoyé dans des bases de données dont on ne sait pas au bout de combien de temps cette information est supprimée, on ne sait pas quels peuvent être les usages. Alors il y a pas mal de startups qui se lancent en disant si les gens sont d'accord quand ils vont se promener dans une rue dans laquelle il y a une boulangerie, ils auront de la publicité pour des croissants qui s'affichera sur leur téléphone. Côté publicitaire de la géolocalisation, qui permet de, d'imaginer, je sais pas, de l'argent qui coule à flot de partout. En tout cas, ça fait rêver pas mal de start-up. Et puis, y a l'aspect enquête policière, effectivement, le complot pour assassiner le préfet Erignac. L'enquête a abouti à un épluchage systématique de toutes les fadettes de téléphone pour savoir qui était en communication téléphonique avec qui juste au moment de l'attentat. C'est un monde assez vaste, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, ça n'existait pas. Maintenant, c'est nouveau. On a tous notre traceur. On est tous suivis très précisément. Et on ne sait pas quelles sont les données qui sont envoyées. On en découvre tous les jours, en tout cas tous les mois. Et récemment, il y a eu encore une affaire où Google essayait de prendre des données de Wi-Fi quand il fait passer sa voiture là, avec la caméra pour Street View dans les rues. Il chopait en même temps des données qui étaient dans les connexions Wi-Fi des différentes maisons qui étaient sur sa route. Toutes ces choses se développent à peu près sans contrôle. On peut dire que la CNIL est totalement débordée. Ils font rapport sur rapport pour dire qu'ils n'ont pas les moyens de tout suivre et que ça ne fait qu'empirer. Donc le logiciel libre, c'est une des conditions nécessaires pour pas totalement verser dans le flicage et la surveillance généralisée. Je dis pas que ça suffira, mais c'est une des conditions nécessaires. Qu'au moins on sache quelles sont les données qui sont envoyées, sous quel format, quel contrôle on a sur elles, etc.
Il a un ordinateur intégral sur la tête avec Internet et oreille email cellulaire. Des jeux de rôle intégrés avec des vrais morts en 3D sous ses lunettes opaques. Il a beaucoup de talent caché, il est l'homme musée, l'homme usé. L'homme usé, l'homme usé. L'homme usé.
Poursuivons cette émission dédiée au logiciel libre, à l'open source et plus généralement à la protection de nos libertés individuelles aussi, des questions qu'on se pose aujourd'hui avec notre ami, votre ami Philippe Rivière, qui est pour cette émission exclusivement votre spécialiste de l'Internet, Philippe.
Oui, et aussi l'ami de Woody Guthrie. Oui, on a parlé tout à l'heure de la liberté de s'informer. Et je pense qu'effectivement avec Internet, on a une profusion d'informations et beaucoup de gens ont du mal à naviguer dans l'océan d'informations, tsunami d'informations qui s'abat sur eux tous les jours. Quoi.
Informations qui sont forcément toutes vraies.
Moi, je ne regarde que TF1, donc je suis bien informé. Il n'y a que des informations véridiques. Je me souviens par exemple de l'extraterrestre de Roswell. On avait appris sur TF1 que c'était vrai. Voilà. Donc s'informer, bon, il faut pas qu'on confonde la quantité et la qualité de l'information, mais c'est pas vraiment mon propos. Mon propos, c'est plus de savoir si je veux m'informer sur, en gros, ce qui passe à la radio, et je parle là des grandes radios nationales, et m'informer sur lire l'équivalent des dépêches AFP. Il suffit que j'allume effectivement la radio. J'ouvre n'importe quel site d'information, j'ai à peu près de ce qu'on appelle l'info. C'est pas vraiment de ça que je veux parler. C'est plus si je m'aperçois que j'ai un problème de santé ou j'ai un problème au travail. J'ai un problème avec mon patron, je sais pas très bien quel droit j'ai et donc il faut que je m'informe. Donc déjà, il vaut mieux que je fasse pas ça au bureau, mais peut-être qu'il serait important qu'on défende aussi le droit d'utiliser Internet pour s'informer sur les conditions de travail, etc. L'usage syndical d'Internet, tout ça, c'est des questions qui sont assez importantes. Mais indépendamment même de ça, si je commence à m'informer de chez moi sur les conditions de travail, sur des problèmes de santé, etc., j'ai pas forcément envie que ça intéresse, mon assureur, ma mutuelle,
le banquier,
mon banquier, voilà. J'ai pas envie que ces informations puissent être exploitées, parce que si elles sont exploitées, ce sera rarement à mon avantage. Et puis même, ça peut être important, même si ça ne peut être qu'à mon avantage, j'ai pas forcément envie que toutes les publicités qui me sont proposées correspondent à mes centres d'intérêt. Je peux avoir envie de simplement pas être tout le temps sous l'œil de Big Brother. Et ça, c'est en train de se perdre. Ça se perd avec les publicités Google, ça se perd avec le fait que, assez souvent, pour lire quelque chose, il faut s'enregistrer, décliner son nom ou son pseudo. On sait qu'il y a certains sites maintenant, des sites soi-disant de réseaux sociaux type Facebook, etc., qui demandent qu'on utilise son vrai nom. On ne peut pas utiliser un pseudo pour se connecter. Donc, on a de plus en plus d'informations qui nous concernent personnellement et nominativement. Et si je veux m'intéresser en tant qu'utilisateur d'un système d'information ou d'un autre, d'un site internet ou d'un réseau social, etc., je veux me brancher sur un groupe de gens qui ont le même problème que moi, ou j'ai pas forcément envie que tous les aspects de ma vie soient fichés. Et ça me paraît minimal. Donc j'ai besoin de pouvoir lire de façon anonyme. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se perdre. Ça se perd parce qu'il y a des aspects commerciaux, c'est-à-dire on veut savoir si j'ai payé mon abonnement avant de m'autoriser à lire un article sur un site de presse. Et en ça, mon diplôme ne fait pas exception, puisqu'on travaille sur un système où les abonnés pourront accéder à plus de contenu. J'ai aussi, sur certains réseaux sociaux, l'obligation de donner mon vrai nom, ça je l'ai déjà dit, qui fait que je me retrouve, dès que je veux m'informer, à être surveillé par quelqu'un. C'est pas forcément une surveillance maligne, mais c'est quand même une surveillance. Et là, j'ai une petite anecdote que j'aime beaucoup parce qu'elle dit tout en un seul exemple. Donc, tu connais le livre électronique qui est vendu par Amazon. Ça s'appelle Kindle, mais bon, il y a d'autres marques. C'est assez génial parce qu'on peut acheter un livre et le télécharger et on l'a tout de suite. Et si, voilà, dès qu'on a envie de lire, on a le fichier sous la main et on peut le lire. Certains aiment bien lire sur un petit écran. C'est pas mon cas. Mais un jour, donc en juillet 2009, les commerciaux de Amazon se sont aperçus qu'ils avaient fait une boulette. Ils avaient offert à la vente un livre sur lequel ils n'avaient pas les droits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que les Kindle de leurs clients se reconnectent au site. Et là, ils ont envoyé une commande au Kindle des clients en leur demandant d'effacer le livre. Et de quel livre s'agissait-il? De 1984 de George Orwell, précisément le livre qui décrit Big Brother et la police de la pensée.
Dernière ligne droite pour cette émission que nous passons avec notre ami Philippe Rivière. On parle aujourd'hui des logiciels libres, de l'open source. On a parlé de ces technologies. Alors, qui les contrôle, ces fameuses technologies, Philippe? Est-ce que c'est les méchantes multinationales qui veulent nous espionner et se faire de l'argent sur notre dos? Ou avec ces logiciels libres et autres open source, le gentil citoyen potentiellement altermondialiste?
Oui, potentiellement pédophile, nazi, etc. C'est la liberté des citoyens, c'est celle de faire un peu ce qu'ils veulent dans le cadre de la loi. On ne peut pas espérer que ces libertés ne soient mises qu'au service des causes qu'on défend. Mais enfin, c'est quand même des libertés qui me semblent importantes. Effectivement, la question de savoir qui contrôle la technologie, c'est vraiment le cœur de cette problématique. Donc il y a des gens qui veulent contrôler non seulement la technologie, mais aussi les usages qui en sont faits. On a donc eu une grosse bataille sur la loi Hadopi, mais c'est quelque chose qui est au plan mondial. Toutes les questions de propriété intellectuelle sont souvent liées à des questions de contrôle et de surveillance de l'Internet. Donc Hadopi, c'est l'exemple qui nous parle le plus, c'est-à-dire...
Je me rappelle en deux mots ce que c'est.
Hadopi, donc, c'est une haute autorité qui est chargée de protéger les droits sur Internet. Mais par les droits, on entend les droits d'auteur et les droits voisins, les droits des ayants droit, les droits des sociétés d'auteurs, etc. En gros, c'est la lutte contre le piratage ou le téléchargement illégal. La manière dont ils ont monté Hadopi, c'est qu'ils surveillent les réseaux, ils regardent ce que les gens téléchargent. Pour ça, ils se branchent, ils font comme s'ils téléchargeaient eux-mêmes et ils regardent qui répond et qui envoie des données. Donc ça permet de collecter des adresses IP. les adresses IP, c'est-à-dire les adresses des connexions Internet derrière lesquelles il y a un ordinateur qui télécharge. Et comme il a été prouvé qu'on ne pouvait pas affirmer que la personne qui téléchargeait était bien la personne qui détenait l'abonnement, parce qu'elle peut être elle-même piratée, etc., toute la discussion sur Adopi, c'est un petit peu comme avec les voitures où si on photographie la plaque d'immatriculation de votre voiture parce que vous roulez à 150 sur l'autoroute, vous pouvez dire que c'est pas vous qui étiez au volant. Adopi, c'est un petit peu ça. Et donc la solution qu'ils ont trouvée dans la loi, c'est de dire qu'il faut sécuriser sa connexion Internet. Donc on a une obligation de sécuriser sa connexion Internet. Donc le système est assez compliqué quand même, c'est-à-dire que il y a une société privée qui est basée à Nantes, qui s'appelle TMG, qui se connecte et fait semblant, télécharge illégalement les fichiers qu'il souhaite, entre guillemets, protéger. Du coup, des ordinateurs se connectent sur les serveurs de TMG, parce que c'est le partage en peer-to-peer, donc de pair à pair, avec des protocoles d'échange de fichiers qui s'appellent BitTorrent. Donc ils se connectent là, cette société relève les numéros IP, puis les transmet à Adopi, qui est une haute autorité donc liée au gouvernement. Et là, Adopi ensuite demande des comptes aux opérateurs de télécom, donc à Free, Orange, etc. Et eux-mêmes envoient des mails aux abonnés en leur demandant de sécuriser leur connexion Internet. Et ensuite on peut envoyer un courrier à la Adopi en disant « Vous dites que ma connexion Internet n'était pas sécurisée, mais pouvez-vous me dire pour quelle œuvre vous m'avez flashé, entre guillemets, et puis comment faire pour sécuriser ma connexion Internet ?» Donc il y a tout un jeu comme ça, un petit peu compliqué. Mais en gros, ce que ça signifie, et pour aller plus loin, parce que c'est sûr que s'ils ne surveillent que BitTorrent, bah le piratage, enfin au sens traditionnel que tout le monde comprend, je cherche pas à jouer sur les mots, va se déplacer sur d'autres technologies. Et ces autres technologies, elles existent déjà. Et c'est Dropbox, c'est FTP, c'est les échanges par Google. Enfin, il y a tellement de possibilités de s'échanger des fichiers maintenant. Pour moi, ça n'a aucun sens d'essayer de bloquer ça. Bref, en tout cas, eux pensent encore qu'ils peuvent le faire en surveillant ce que fait chacun. Et pour ça, il faut surveiller toutes les communications. Donc, on part d'une problématique qui est le respect des droits d'auteur et on arrive à une problématique de surveillance totale des communications. Chacun doit sécuriser sa connexion, c'est-à-dire mettre des mots de passe qui permettent de garantir que c'est bien lui qui se connecte sur sa borne Wi-Fi, par exemple. Le problème, c'est que si on voit que le département d'État des États-Unis arrive à se faire pirater et que tous les câbles diplomatiques là, de Wikileaks se baladent dans la nature et que les entreprises comme Renault sont dans l'espionnage industriel, monsieur tout le monde devrait être capable de sécuriser son réseau qui lui a été installé comme ça parce qu'il a pris un abonnement Internet. C'est absurde. Mais bon, on en est là. Donc si on refuse la surveillance généralisée, on ne peut être que contre Adopi. Il y a un autre problème avec Adopi, c'est qu'au bout de 3 avertissements, on passe dans un système de coupure de connexion. Couper la connexion Internet, c'est très bien si, un enfant, il abuse des bonbons, on le prive de bonbons. Sauf que Internet, maintenant, on sait que c'est indispensable pour s'informer, pour suivre les devoirs de ses enfants à l'école, c'est indispensable pour ses devoirs civiques, pour voter. C'est pas encore indispensable, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on vote sur Internet. Si on est membre d'une association, pratiquement toute la communication de l'association, elle passe par Internet. Donc on est en train de dire aux gens, quelqu'un, je sais pas, un ado dans votre famille a téléchargé une chanson de Adele ou de Michael Jackson, des gens qui gagnent déjà pas mal d'argent. Vous abusez, vous n'êtes pas capable de sécuriser votre connexion, et donc on vous empêche de participer à la vie publique. Ça, c'est pour moi, c'est un deuxième élément très grave. Dès lors que une grosse partie de la vie publique se déplace sur les réseaux informatiques, il est essentiel que chacun puisse y avoir accès. C'est pas en soi un droit de l'homme, mais c'est un outil essentiel pour jouir de ces droits humains. C'est aussi ce qu'affirme le Parlement européen. Donc il y a toute une bataille politique qui est très précise. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a toute une bataille politique qui a lieu en particulier au Parlement européen avec la transposition en droit internationale et puis tous les accords internationaux. Donc du coup, il y a des tas de projets de loi qui sont proposés, contre lesquels Internet se mobilise très souvent. Alors, celui dont on a le plus entendu parler récemment, c'était ACTA. ACTA, ça se présentait comme un accord commercial anti-contrefaçon, qui était censé permettre de mettre en branle plus vite la douane quand il y avait une cargaison de faux sacs Vuitton qui arrivait à la frontière. Dans ACTA, ils ont aussi mis des éléments juridiques contre le téléchargement de fichiers. Donc on voit que c'est un grand tout. Ils ont essayé de faire passer ça en force. Donc là aussi, c'est le Parlement européen qui nous a sauvés, et en particulier grâce à l'action d'une association basée en France qui s'appelle la Quadrature du Net, qui ont fait un travail absolument formidable sur ACTA. Mais parmi les associations qui se mobilisaient, il y avait aussi ACT UP Paris. Je parle en France, hein, parce qu'au plan international, il y a eu beaucoup de monde. ACT UP Paris, pourquoi ? Parce que dans beaucoup de pays, on a besoin de médicaments génériques pour lutter contre le sida de manière efficace, parce que les médicaments de marque sont beaucoup trop chers. Donc le fait qu'il existe des génériques permet de diminuer les coûts et donc de soigner plus de monde. Et la crainte que ACT UP Paris avait, c'était que cet accord international ACTA permettrait aux firmes pharmaceutiques de bloquer des transports de médicaments génériques en arguant du fait que c'était des contrefaçons. Donc comme on est sur des choses qui juridiquement sont assez complexes, on ne peut pas imaginer qu'un douanier mobilisé dans l'urgence sache faire la différence. Et donc c'était un peu la porte ouverte à des abus. Donc la contrefaçon de sacs ou de baskets, le téléchargement de musique, la question des médicaments génériques, mettre tout ça dans un gros paquet qui s'appelait ACTA. C'est un traité qui avait été négocié en plus en secret, en dehors des organisations internationales classiques. Donc c'est vraiment une coalition ad hoc qui s'était formée autour de ça pour négocier en secret, pour ensuite espérer étendre cet accord par les bras de fer habituels. T'as plein de grands pays qui se mettent d'accord, puis les petits qui sont obligés de suivre, sinon on leur met des taxes sur leurs exportations de fleurs ou je ne sais quoi. Les fleurs, c'est un exemple très précis, hein, en Colombie, ils exportent beaucoup de fleurs pour pas avoir de taxes plus élevées à l'exportation des fleurs. Ils ont accepté un traité sur la propriété intellectuelle assez contraignant. Donc ce genre de cas existe tout le temps. Je l'invente pas, quoi. Je le tire pas de mon chapeau. La surveillance, la lutte contre le piratage, contre la criminalité, contre le terrorisme, tout ça est toujours mélangé. Et c'est toujours mélangé dans les discours. À chaque fois qu'on nous propose une loi pour lutter contre le terrorisme, bah dans cette loi, il y a tout un bagage qui va permettre à l'État de mettre en place des éléments de surveillance et de flicage et de répression, de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Même les manifestants de Occupy Wall Street, donc qui eux sont anticapitalistes et qui n'ont pas fait de mal à une mouche, ils se sont traités de terroristes. À partir de là, la police pourrait mettre des mouchards dans leurs ordinateurs, parce que les téléphones ça suffit pas, pourrait les mettre en détention pendant des durées plus élevées. Enfin, on voit où ça mène, quoi. L'antiterrorisme, ça fait 11 ans maintenant.
Le Patriot Act, non, aux États-Unis. Le
Patriot Act, il y a une quantité de choses invraisemblables. Puis c'est aux États-Unis, puis ça s'est développé partout. Ben, en France, ça a donné l'affaire de Tarnac. L'affaire de Tarnac, c'est...
Des gens dont la culpabilité n'est absolument pas établie, mais c'est pas grave, on peut les embastiller quand même, voilà, parce qu'on soupçonne.
Voilà.
Puis, on a eu aussi toutes les joyeusetés autour des lois LOPSI, hein, loi d'observation et de programmation sur la sécurité intérieure, volume 1, et puis LOPSI contre-attaque, hein, il y a aussi LOPSI 2, qui luttait pêle-mêle contre les yourtes, les cabanes en bois et les terroristes.
Voilà, donc c'est des grands fourre-tout. Et à chaque fois, on trouve des gens pour défendre ces fourre-tout en disant bah, « il faut bien une loi pour lutter contre la pédophilie ». Ah bah oui, cher monsieur, c'est vrai, vous avez raison. Alors on accepte tout et n'importe quoi parce qu'il faut lutter contre la pédophilie, contre le nazisme et contre le terrorisme. Et c'est vrai que ces problèmes se posent. Ça veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi et faire des lois qui couvrent un champ qui n'a rien à voir avec cette propagande qui les accompagne. Et ça, ce qui est amusant ou triste ou enfin assez révélateur, c'est que les pédophiles et les nazis, c'est associé à l'image d'Internet depuis le début. Dès qu'on a commencé à parler d'Internet à la télévision, au tout début, dans les années, je sais pas, 93, 94, c'était déjà des sujets sur la pédophilie et le fait qu'il y avait des nazis, etc., etc. Je dis pas que ces choses-là n'existent pas, et il y a c'est évident que ça existe, mais ça a toujours été l'argument massu pour faire passer des lois qui n'ont rien à voir. un exemple simple, c'est que tout le monde se rendant compte que Internet est de plus en plus fliqué, tout le monde se met à utiliser des outils de communication de plus en plus sécurisés. Il y a un des policiers qui lutte contre les pédophiles, qui les traque sur Internet, qui disait que la loi Hadopi allait pousser les pédophiles à utiliser des moyens de sécurisation de leur communication qui rendraient son travail à lui beaucoup plus difficile. Je ne dis pas qu'il faut trancher sur cet avis-là, mais c'est quand même important de se rendre compte qu'accroître la surveillance n'apporte pas automatiquement des résultats. Ça peut avoir des résultats tout à fait contraires aux objectifs affichés. Bon, à part les terroristes, etc., moi, ce qui m'amuse, c'est... on va revenir un peu à Bill Gates, dont on parlait au début. En 2005, lui, il voyait des communistes partout. Il disait, il y a certains communistes d'un nouveau genre, cachés sous différents masques, qui veulent se débarrasser des mesures incitatives dont bénéficient les musiciens, les cinéastes et les créateurs de logiciels. Voilà. Donc Bill Gates, il a racheté des catalogues de photos à la tonne avec Corbis. Et j'ai pas l'impression que la situation des photographes se soit grandement améliorée depuis. En même temps, quand il dit que parmi les gens qui mettent en commun des choses sur Internet, il y a des communistes d'un genre nouveau, je suis pas totalement choqué par la critique. C'est-à-dire actuellement, c'est un petit peu le système libéral qui est stalinien, et les communistes d'un genre nouveau, c'est ceux qui essaient de recréer des communs, c'est-à-dire des biens communs. Et ces biens communs, on en a absolument besoin, qu'il s'agisse de culture qu'on partage sur Internet, de sites d'information ou de poésie ou autres qu'on construit sur le web. Tout ça, collectivement, ça forme un bien public. C'est pas uniquement une somme de biens privés qu'on va consommer, c'est un bien public où on peut aller, qui permet d'élaborer d'autres choses. Ça appartient à tout le monde. Chacun va pouvoir venir épuiser des idées, utiliser par exemple de la musique trouvée sur un site de musique libre, et puis l'intégrer à un diaporama qui parlera peut-être d'autre chose, mais qui prendra de la force grâce à cette musique. Et puis on peut détourner des sons. Je sais pas si tu vois un petit peu à quoi ça peut servir. Le droit de critique pour s'amuser, apprendre, tout ce qui est artistique, etc. Tout ça, ça avance de manière cumulative. Hein. On n'est pas chacun, dès la naissance, en train de se créer un petit capital privé de culture qui serait basé uniquement sur la culture qu'on aurait achetée par ailleurs. Et puis après, on essaierait de vendre notre culture. C'est pas comme ça que marchent les sociétés humaines. On a besoin de réfléchir à la structure de ces biens communs. Alors si on se limite déjà aux biens communs informationnels, ça serait pas mal. La science, la culture, l'amusement, le logiciel. Internet, ça permet de diffuser tout ça et de constituer un réservoir vivant de biens culturels au sens large. Et pour les défendre et pour mobiliser des ressources pour les produire, je pense pas que ce soit en les enfermant derrière des murs de paiement, les fameux paywalls, ou des systèmes qui font que les fichiers s'autodétruisent quand on les a recopiés 4 fois. Il faut vraiment inventer un autre modèle. Il y a pas mal d'idées hein, pour d'autres modèles de financement. C'est sans doute en dehors du champ de cette émission, mais il y a pas mal d'idées pour ce qu'on a appelé au moment de la discussion sur la loi Hadopi, la licence globale, mais aussi les subventions publiques, mais aussi le revenu d'existence, l'appel à contribution, on appelle le public à contribuer pour financer des projets qui à terme seront distribués à tout le monde. Donc tout ça, ça existe, c'est des modèles qui sont différents, qui ne permettent pas aux gens qui fonctionnent sur l'ancien modèle d'assurer leur rente de situation ou leur modèle économique. Peut-être qu'il faut qu'ils s'adaptent, qu'ils laissent une part à l'expérimentation, ou peut-être qu'il faut qu'ils disparaissent et que la culture pourra se faire sans eux. Mais actuellement, on est dans une opposition dont je ne sais pas ce qui va émerger. Mais c'est assez riche quand même de potentialités.
On va rester sur cette interrogation.
Non, c'est plutôt un appel à participation.
On se retrouve très prochainement pour continuer à parler d'Internet. Vous pouvez, pour le moment encore, hein, vous y êtes encore autorisé, et ce gratuitement. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.polemixetlavoixoff.com, tout attaché. Et bien entendu aussi, vous promener sur le site du Monde Diplomatique, le www.monde-diplomatique.fr. A très bientôt, Philippe.
Au revoir, merci.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM.
My shit up. Whole lot of good mind. Money growing trees, bitch, I'm rooted up. Money growing trees, bitch, I'm rooted up. I'm rooted up. They hating low key, so I'm tooled up. I'm tooled up. Home, Mercy Drive, posted in a cut. I'm in a cut. Trying to fuck this bitch, I made it out of luck. Out of luck. False.